Voilà. Nous allons reprendre le fil de cet exposé. C'est l'heure creuse. Mais justement, dans le creux, c'est magnifique. Le plein peut arriver. Et je ne sais pas si vous éprouvez comme moi, mais la faim qui se creuse dans notre estomac ouvre l'espace pour autre chose. Tout à l'heure, je vous disais que des gens, des personnes, des savants, des scientifiques, Freud, etc., avaient dit que le fait de considérer Dieu comme un père, c'était une projection humaine. En d'autres termes, que la paternité divine était un anthropomorphisme. On projette dans le divin ce que l'on connaît dans l'humain. Or, le Christ nous dit exactement le contraire. Ce n'est pas nous qui avons appelé Dieu Père pour la première fois. C'est le Fils divin qui nomme Dieu son Père. Et il est tellement Père, tellement le seul Père, que Jésus nous recommande de n'appeler sur terre personne Père, mais de réserver ce nom au seul Père céleste. C'est dans Matthieu 23, « N'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'en avez qu'un seul, le Père céleste. » Et donc, on peut dire que ce n'est pas la paternité humaine qui sert de modèle à la paternité divine, mais exactement l'inverse, c'est la paternité humaine qui peut être le reflet, l'image de la paternité divine. Et donc, plutôt que d'un anthropomorphisme, on pourrait parler d'un théomorphisme de la paternité humaine. Je ne sais pas si le terme existe, mais vous comprenez ce que ça veut dire. On retourne la chaussette. Et ce n'est pas sans conséquence, parce que si la paternité humaine est à l'image de la paternité divine, elle doit tendre vers son modèle et en revêtir les qualités. Non seulement l'engendrement, mais l'éducation, la tendresse, le pardon et le dépouillement. Comme dit un commentateur du Notre Père, exercer la paternité ici-bas, c'est contempler la paternité de Dieu. Une question, une grande question qui va nous occuper quelques instants. On peut se demander, à la lumière de la révélation biblique de la paternité, ce qu'est être père. Qu'est-ce que c'est finalement être père? Et pour le savoir, comme je viens de vous le dire, nous devons partir nécessairement de la paternité divine qui sert de modèle à la paternité humaine. On ne peut pas comprendre et pénétrer en profondeur dans la paternité si on ne comprend pas, comprendre est un mauvais mot, si on ne contemple pas la paternité divine. Alors comment parler avec nos pauvres mots et notre intelligence, somme toute quand même limitée, d'une paternité qui nous dépasse infiniment, totalement? Cette paternité de Dieu est hors de l'espace et hors du temps. Et nous avons bien du mal, nous qui sommes dans l'espace-temps, à nous projeter hors de l'espace et du temps que nous connaissons. Saint Grégoire de Nazianz ironise à ce propos. Et il dit, nous ne pouvons traiter en physiologiste la génération du Fils divin, ni la procession de l'Esprit Saint. Pour ne pas, dit-il, être frappé de folie, pour avoir regardé sournoisement les mystères de Dieu. Nous sommes donc, nous devons bien rester conscients des limites de notre entendement, mais nous pouvons quand même avancer quelques mots, qui s'appuient d'ailleurs sur les paroles du Christ et sur la pensée des pères de l'Église. La première chose évidente qu'on peut dire à propos de la paternité divine, c'est que être père, c'est engendrer. Engendrer un autre. Et c'est ce que disent une multitude de textes que nous citons dans la liturgie, par exemple à Noël. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ou l'hymne de la Pentecôte, de toute éternité, le Père engendre le Fils éternel et roi. Ou encore le très beau chant de l'Avent, avant l'aurore de la création, engendré par le Père éternel. Donc l'engendrement est bien sûr la première caractéristique du Père qui est source Et vous me direz, ben oui, c'est évident. Eh bien, c'est pas si évident que ça, figurons-nous. Parce que la paternité, l'engendrement manifeste la fécondité de Dieu. Contrairement au Dieu des philosophes qui, lui, je vous le rappelais tout à l'heure, reste très à distance. Dans sa perfection intangible, immuable. Le Dieu biblique, je vous le disais aussi tout à l'heure, c'est le Dieu vivant. Et donc il engendre. Et il engendre par amour extatique. Il sort de lui-même. Il arrive. Et c'est tellement vrai ce que je vous disais, la résistance à cette pensée de l'engendrement par Dieu, que différents courants de pensée, dont l'arianisme, dont nous avons parlé il y a déjà 2-3 ans, niaient totalement la divinité du Fils, disant le Père ne peut engendrer. Ou sinon, il se multiplie, il se dédouble. Et à cela, notre patron, saint Athanase, répondait, vous prenez un Dieu stérile, un Dieu incapable d'engendrer et de donner la vie. Or, l'être même de Dieu, c'est le don total, c'est l'engendrement vital, en permanence. Ce qui fait que nous appelons le Père de différents noms, notamment le principe, le Père est le principe, la source, l'origine de tout, y compris des deux autres personnes divines. Comme l'écrit saint Paul, tout est de lui. Et il ajoute, en parlant du Christ, par lui et en lui, en parlant de l'Esprit. Mais tout est de lui, du Père. Deuxième caractéristique fondamentale, mais finalement c'est la même développée d'une autre manière, c'est que le Père divin, en engendrant le Fils, se donne totalement à lui. Il s'efface au profit du Fils. Il donne tout au Fils. Et le Christ lui-même le dira, « Tout ce que possède le Père est à moi », dans saint Jean 16. Ou encore, « Qui m'a vu a vu le Père ». Ou encore, « Le Père a remis tout pouvoir au Fils ». « Le Père me glorifie ». Et donc, l'amour du Père, l'amour total du Père pour le Fils, le pousse à lui donner tout, tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, à se vider totalement dans le Fils. Un extrait d'un livre du Père Marc-Antoine Costa de Beauregard sur la pensée orthodoxe exprime bien « L'amour du Père, c'est de désirer l'existence d'un autre que lui-même, de se retrancher volontairement. Il s'efface en donnant l'existence à un autre que lui-même. Cependant, il donne tout ce qu'il a et tout ce qu'il est, non pas en le morcelant, mais en se donnant totalement, sans restriction. Ne gardant rien pour soi, le Père se vide de lui-même, afin de se posséder non pas en soi, mais hors de soi. Si je peux prendre une comparaison un peu agricole et peut-être sans doute boiteuse, on pourrait comparer le Père à un grand sac rempli de graines. Et ce sac se déverse totalement, il ne garde rien en lui, il se déverse dans la terre qui est le Fils. Et dans la terre, vous savez qu'il faut deux éléments pour pousser, il faut d'abord de la terre, un réceptacle, et il faut de l'eau, de l'humidité. Et l'humidité, l'eau, c'est l'Esprit Saint. Et toutes ces graines déversées par ce sac se déverse dans la terre, qui avec la terre, la conjonction de la terre et de l'eau, fait pousser les épis qui eux-mêmes entrent à nouveau dans le sac qui va se redéverser. Et donc comme ça nous avons une progression, je dirais, géométrique du sac qui se déverse et les épis qui poussent, qui rentrent dans le sac qui se déverse à nouveau. Et nous avons là une image, je veux bien l'admettre, un peu boiteuse de ce qui se passe dans la vie divine. Et de ce qui se passe entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le don total qui fait croître l'autre, qui vous remplit à nouveau, et à nouveau un don total. Et nous touchons ici à une réalité fondamentale de la vie spirituelle et de la foi chrétienne. Je vous l'annonçais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la kénose. c'est pas un très joli mot, mais ça vient d'un terme grec, le terme kénosis, qui est un adjectif qui signifie vide, dépouillé. Ou bien aussi de kénéo, c'est le verbe qui signifie forcément se vider, se dépouiller, s'anéantir. Et nous retrouvons cette expression de la manière la plus imagée, la plus parlante dans saint Paul, dans l'hymne aux Philippiens 2. Il emploie le mot ekénosène, c'est-à-dire le Christ s'est anéanti lui-même. Ici, il parle de la deuxième personne de la Trinité, mais les trois personnes de la Trinité ont exactement la même attitude fondamentale. Se vider, s'anéantir, se donner pour que l'autre soit. Un petit extrait de Nicolas Sakharov, qui est un théologien orthodoxe, qui a écrit un très beau livre sur la théologie du Père Sophronie, qui s'appelle « J'aime donc je suis ». Il a pas mal comme leçon. Pour vivre dans l'autre personne par l'amour, la personne se vide d'elle-même et reçoit l'autre en son être. L'hypostase, c'est-à-dire la personne, se vide d'elle-même dans un amour kénotique envers l'autre personne, offrant à cette dernière la plénitude de son être. Ainsi, dans l'éternel engendrement du Fils, le Père lui donne tout ce qu'il a lui-même dans la plénitude de son être éternel. La capacité absolue de donner et de recevoir constitue l'unité absolue de l'être divin, où l'unité des personnes n'est pas statique, mais éternellement dynamique. Vous voyez, avec l'image du sac notamment, ce que ça veut dire. C'est un dynamisme permanent où une personne se donne totalement à l'autre personne qui la renvoie à la troisième. Et c'est une danse en rond que dans la théologie on appelle la périchorèse. C'est un terme que je n'ai jamais aimé en me disant qu'est-ce que c'est que ce barbarisme, mais en réalité quand j'ai analysé ce que ça voulait dire l'étymologie, ça veut dire danser en rond. La chorégraphie est péri autour. Et donc dans la divine Trinité, il y a une éternelle danse en rond de personnes qui se donnent l'une à l'autre, comme on le voit magnifiquement bien représenté sur l'icône de l'hospitalité d'Avignon de André Rouglès. Il y a donc une kénose fondamentale du Père, comme il y a une kénose du Fils et une kénose de l'Esprit-Saint. Je parlerai ici, en tout cas pour le moment, que de la kénose du Père. La kénose du Père se manifeste de deux manières, l'une dans la vie divine, l'autre dans la vie créée, dans la création. Vis-à-vis du Fils, dans la vie divine, nous venons de le voir, la kénose se manifeste du Père, se manifeste par l'engendrement et le don total que le Père fait de lui-même. Le Père Sophronie dit, le Père se vide complètement dans la génération du Fils. Et puis il ajoute, kénose du Fils, quant au Fils, il rend tout au Père. Et nous allons voir plus loin que ça explique totalement la manière de vivre du Christ, la manière d'être qu'il nous a transmise. Et vis-à-vis de la création, cet effacement du Père, qui est sa manière fondamentale d'être, s'exprime par le fait que c'est le Fils unique, Jésus-Christ, qui va s'incarner. Ce n'est pas le Père. Le Père donne tout au Fils, et n'apparaît, ne se révèle aux hommes qu'à travers le Fils. Et le Père demeure mystérieusement caché. Il n'est révélé qu'au Fils, qui lui-même nous révèle le Père. Et on peut donc dire, je crois que c'est important à saisir, que le Père est non manifesté, mais le Fils le manifeste. Le Père est silence, mais le Fils est sa parole. Le Père est pensée et le Fils est le Logos qui exprime. Le Père est invisible, mais le Fils est son image, son icône. Et donc, il résulte de cela de manière évidente qu'on ne peut connaître le Père que par le Fils, et dans l'Esprit-Saint d'ailleurs. Parce que sans l'Esprit-Saint, notre cœur et notre intelligence restent fermés à ces mystères divins. Et le Christ dira notamment, mais il le dit à différentes reprises, « Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Et à différentes reprises, on dirait que le Fils, le Christ, affirme une quasi-identité entre lui et le Père. identité non de personne, mais en tout cas d'action, de volonté, d'amour. Et pourtant, ils sont distincts, mais totalement unis. Et le Christ dit, le Père et moi sommes un. Qui m'a vu, a vu le Père. Le Père est en moi, et moi dans le Père. Et nous touchons ainsi, en regardant le Christ agir, parler, enseigner, au mystère de la transparence des personnes divines. Les personnes divines sont le miroir les unes des autres. Et après cette réalité riche de la paternité, abordons un peu sous l'autre angle, celui de la filiation. Et ça nous concerne particulièrement. Le mystère de la paternité et le mystère de la filiation, écrit Antoine Blum, sont corrélatifs. Vous ne pouvez connaître le Père à moins de connaître le Fils, pas plus que vous ne pouvez connaître le Fils si vous ne connaissez le Père. Et à nouveau, ce ne sont pas des notions abstraites. Nous devons et nous ne pouvons que tourner notre regard vers le Christ, qui est le Fils parfait du Père, qui exprime, manifeste le Père en chacune de ses paroles, en chacun de ses actes, en chacun de ses gestes. Et que signifie être fils pour Jésus? Comment agit-il? Eh bien, nous venons de rappeler que le rôle du Fils dans le monde créé, c'est être une parole sortie du silence, une manifestation sortie du non-manifesté, une incarnation sortie de l'incréé, et une image du Dieu invisible. Et dans sa prière sacerdotale au chapitre 17 de Saint Jean que nous lisons à la Semaine Sainte, Jésus résume sa mission en disant qu'il a fait connaître et manifester aux hommes le nom du Père, c'est-à-dire son existence, son être et son union intime avec lui. Et le moine de l'église d'Orient, qui est le Père Lev Gillet, dans son commentaire du Notre Père, dit « Pour connaître le Père, nous devons écouter Jésus-Christ. C'est lui qui nous introduit doucement dans l'intimité de celui qui est son Père et notre Père. Nous pouvons être des fils passifs du Père, des fils potentiels, ou nous pouvons être des fils actifs, c'est-à-dire en voie, en tout cas, de réalisation, si pas tout à fait réalisée, puisque c'est tout le chemin de cette réalisation qui est devant nous. Et pour devenir des fils actifs du Père, et non pas des fils à l'état larvaire, je dirais, théorique, pure potentialité, nous ne pouvons que regarder vivre le Christ, et comme lui accorder sans cesse notre volonté à celle du Père. Comme Jésus n'a cessé de le faire à tout instant de sa vie ici-bas. Sans cesse il rappelait, je suis venu faire la volonté de mon Père. Ma nourriture, c'est d'accomplir la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Père, dit-il à sa passion, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il ne s'agit pas ici, évidemment, d'une passivité, d'une obéissance subie, d'une soumission servile et résignée, pas moins de faire autrement. Mais non, il s'agit d'un accord fondamental, exactement comme l'harmonie d'un accord parfait en musique. Vous savez, quand on fait la tonique, la tierce et la dominante, nous avons l'accord parfait en musique. Et cet accord sonne juste, c'est une plénitude, une harmonie. Eh bien, cet accord parfait, c'est exactement une belle icône, une belle image de l'accord entre le Fils et le Père, entre Jésus et le Père céleste. C'est-à-dire l'accord de deux personnes divines qui n'ont qu'une seule volonté, une seule action, un seul amour, qui vivent dans une symbiose totale, constante, un don total de l'une à l'autre. Une communion d'amour qui dépasse nos pauvres mots. La vie en Dieu, écrit le moine de l'Église d'Orient, est la circulation d'un amour infini entre les trois personnes. Et voici, et ça c'est important, ça nous ouvre une nouvelle perspective, et voici que dans leur générosité, les trois personnes ouvrent leur cercle parfait d'amour et veulent nous y accueillir. C'est le destin de l'homme sauvé que d'être à jamais introduit dans la vie divine et d'y participer. Sans oublier, bien sûr, dans cette danse en rond dont je vous parlais tout à l'heure, la péricorèse, le rôle de l'Esprit Saint. Ce n'est pas qu'entre le Père et le Fils que l'énergie circule, mais entre les trois personnes. Alors, nous tourner vers le Père, c'est effectivement être inspiré par l'Esprit qui en nous, comme le dit saint Paul, murmure « Abba, Père ». Si nous pouvons appeler Dieu le Père, c'est uniquement parce que l'Esprit Saint nous l'inspire. Comme dit saint Paul dans l'Épître aux Galates, « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Et dans Romains, chapitre 8, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et nous entrons alors, dès maintenant, dès les premiers mots de la prière, notre Père, dans la communion même des personnes divines. Mais cette réception de la personne divine n'est possible que par notre propre kénose. Nous avons parlé de la kénose des trois personnes divines parce qu'elles sont des personnes. Mais comme nous sommes aussi des personnes, nous sommes appelés à nous donner totalement à l'autre. C'est-à-dire à nous ouvrir, à accueillir, à être humble comme Dieu est humble. À anéantir en nous tout ce qui fait barrage, qui fait obstacle à la grâce. Et ça commence par se vider de ses soucis, comme on le chante dans le Cherubicon, vous savez, le chant de la grande entrée. Éloignons tous les soucis. Lutter contre notre convoitise, notre autosuffisance, notre égocentrisme individuel. Tourner, en réalité, vers notre propre néant. Et devenir, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est caractéristique des personnes, devenir transparents l'un à l'autre. Et donc l'accueil de l'autre en soi engage le moi à s'abaisser, à devenir transparent. Et on ne peut faire de l'espace en soi qu'en nettoyant en profondeur sa maison intérieure. Ce que nous essayons de commencer aujourd'hui. Enfin, ce n'est pas la première fois qu'on essaye, mais de temps en temps, il faut un grand nettoyage de printemps. Et donc, en créant un vide en nous susceptible d'accueillir un plein. Et Nicolas Sakharov, qui écrit le livre sur le Père Sophronie, écrit ceci, qui est très beau, « La profondeur de l'expérience de la grâce dépend de l'intensité de la kénose. » Ce qui veut dire en d'autres termes que ce n'est pas en étant autosatisfait et en priant de temps en temps sans jamais se remettre en question ni se remettre en route que nous allons être réceptifs à la grâce. La grâce se déverse en permanence sur nous, mais sommes-nous prêts à l'accueillir ? Y a-t-il en nous ce vide créé par la kénose, à l'image de celle des personnes divines ? Petite question avant de passer à une autre réalité. Il me paraît fondamental que nous nous posions cette question importante. Je ne sais plus jusqu'à quelle heure. 16h45. Ah non, 16h30. Alors. La question fondamentale, quelle est ma perception de Dieu ? Est-ce que je le ressens comme un père proche qui m'aime avec tendresse, qui prend soin de moi, ou comme un maître exigeant, voire comme un tyran ? Rappelez-vous les paraboles des serviteurs. Il y en a un qui a peur de son maître et qui cache son talent sous l'arbre, parce qu'il a peur de le perdre. Ou bien encore, est-ce que je perçois Dieu comme une entité abstraite, impersonnelle, inconnaissable, le divin dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire quelque chose d'assez éloigné de ma vie humaine. La réponse du Christ à cette question est évidente et bouleversante. Dieu est Père, mon Père, notre Père, et nous pouvons nouer avec lui une relation de confiance, d'abandon total. Et le moine de l'Église d'Orient écrit aussi là-dessus, Il est difficile de nous représenter le Père. Peut-être nous approcherons-nous de la vérité si nous pensons au Père comme à un cœur, dont chaque battement est un acte infini d'amour, comme à la tendresse première qui enveloppe tout ce qui existe. Tout à l'heure, Fabienne, quand elle menait la première méditation, nous a introduit dans notre cœur, ou battait à notre cœur. Eh bien, le cœur du Père bat dans le nôtre. C'est notre battement fondamental. Alors, nous pouvons tirer deux conclusions, ou deux conséquences plus concrètes de ce que je viens de vous dire. C'est d'abord, la première est assez évidente, et je crois que la seconde l'est aussi, peut-être un peu moins, c'est que nous avons une filiation divine. Nous sommes tous des fils du Très-Haut, tous des fils du Père. Et deuxièmement, si nous sommes fils du même Père, nous sommes frères et sœurs. Et c'est à nouveau le Christ qui nous révèle notre filiation divine. Parce qu'on pourrait dire, au fond, d'accord, le Christ, le Fils unique, est fils de toute éternité. Mais nous, est-ce que nous sommes fils du Père ? Or, Jésus ne se borne pas à accomplir son rôle de fils du Père céleste. Il étend explicitement cette filiation à tous les hommes. C'est-à-dire qu'il fait de nous des fils et des filles du Père céleste. Il nous révèle notre filiation divine. J'ai pris quelques extraits des évangiles ici, mais il y en a d'autres. À diverses reprises, Jésus appelle Dieu non seulement son Père, mais ton Père ou votre Père. Par exemple, il dit « ton Père qui voit dans le secret » ou « votre Père qui donne de bonnes choses à ses enfants » ou « votre Père sait ce dont vous avez besoin ». Quelle joie de se découvrir fils et fille de Dieu, non ? Frère et sœur du Christ, ça va jusque-là. Jésus ouvre mes yeux et mon cœur à cette intimité que j'ignorais jusque-là, écrit Daniel Bourquet dans Approche de notre Père. Et découvrir, grâce au Christ, une telle intimité est une sorte de création, d'enfantement. Non seulement nous sommes nés d'une vie biologique, engendrée par nos parents biologiques sur terre, mais nous sommes nés aussi du ciel. Notre Père est au ciel. Et saint Jean dira dans sa première lettre, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu, lui le Père. » Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, avec majuscule, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous sommes donc promis à cette filiation et à cette vie divine introduite par le Christ dans l'intimité de la divine Trinité, en devenant fils et filles du Père. Alors, je dis « nous », mais qui ça « nous » ? Est-ce que ce sont les chrétiens qui sont les seuls enfants du Père ? Vous connaissez déjà la réponse, bien sûr. Il est évident que tous les êtres humains n'ont pas encore pris conscience de leur filiation divine, et même peuvent la refuser même, refusant toute référence à Dieu, et plus encore à un Dieu qui est Père. Mais il est évident pourtant que si Dieu est Père parce qu'il est Créateur et qu'il se donne totalement non seulement au Christ, mais aux hommes et aux femmes, s'il aime chacun de ses enfants, il me semble évident qu'il ne peut en renier aucun, que l'enfant le prie ou ne le prie pas, qu'il aille vers lui ou n'aille pas vers lui, qu'il le sache ou ne le sache pas. Le Père aime tous ses enfants de la même manière, comme nous le montrent les deux belles paraboles, l'une de du Fils prodigue et l'autre de la brebis égarée. La brebis s'est écartée du troupeau et le berger n'a plus qu'une chose en tête, c'est aller la rechercher. Et ça, c'est une magnifique image, non seulement du Christ, mais du Père qui nous aime tous, de la même manière. Il est et il reste, il restera le Père de tous les hommes, que les hommes le sachent ou non et qu'ils l'acceptent ou non. Et ce n'est pas violenter la conscience humaine que de le dire, parce que l'homme reste libre d'accepter cette filiation ou de la rejeter. Et nous pouvons aussi ne pas percevoir Dieu comme un père, comme je vous le disais tout à l'heure, mais le considérer comme un être. Et donc d'être vis-à-vis de lui dans une relation, je dirais, d'esclave, ou de serviteur, ou de mercenaire. Et la caractéristique de ces trois personnes, de ces trois fonctions, esclave, serviteur, mercenaire, c'est qu'ils attendent du maître la sécurité, ou la protection, ou le salaire. Mais nous pouvons aussi, et ça le Christ nous l'enseigne fondamentalement, considérer le Dieu comme un père, c'est-à-dire nouer avec lui une relation d'amour totalement désintéressée, d'être dans la joie, la reconnaissance, la louange, la bénédiction. Ce qui importe au serviteur, c'est la rétribution. Je te donne mon travail, tu me donnes un salaire. Ce qui est essentiel pour le fils, mais aussi pour l'ami ou le frère, c'est leur relation gratuite de personne à personne. La gratuité. Et aussi l'enthousiasme, le désir d'être ensemble, parce qu'on ne peut pas se passer l'un de l'autre. Et c'est ce que dit le Christ à la fin de sa vie, dans le chapitre 15 de Saint Jean. « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Et Saint Jean Cassien paraphrase un peu cette phrase en disant « Nous sommes invités par le Christ à passer de la condition servile, à celle de fils adoptif. » À retrouver cette filiation essentielle qui est oubliée par l'humanité et rejetée même avec vigueur par certains, et souvent de manière inconsciente. Parce qu'il y a des obstacles à cette reconnaissance. Le premier obstacle, c'est l'autosuffisance. La reconnaissance de cette dépendance vis-à-vis du Père Céleste heurte un sentiment dominant à notre époque, qui est le sentiment d'autonomie, d'individualisme, d'autosuffisance, d'autoréférence. Notre époque, un sociologue l'a nommée l'ère du vide, parce que c'est l'ère de l'individualisme exacerbé, effrayant, acharné. Évidemment, vous penserez que le vide peut, comme on le disait tout à l'heure, amener un plein. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il parle. C'est l'ère du néant, l'ère de l'individualisme. Premier obstacle, je dirais, obstacle culturel, sociologique. Il y a un deuxième obstacle qui est psychologique. Nous reconnaître fils du Père, c'est accepter d'être ses enfants, c'est-à-dire admettre que nous sommes dépendants de lui, nous placer dans sa dépendance, et que nous recevons tout de lui, et que nous acceptons avec joie cette dépendance, que nous sommes comblés par la dépendance vis-à-vis de notre Père Céleste. Alors là, vous savez, et il y a quelques psychologues parmi nous, mais tout le monde sait ça, que sur le plan psychologique, ça coince parfois avec le Père. Et donc, ça va engendrer des difficultés pour reconnaître qu'il y a la paternité en soi, et de nous reconnaître dépendants d'un Père spirituel ou d'un Père céleste. En effet, beaucoup de personnes refusent la paternité divine, et spirituelle aussi, car elles projettent sur le Père céleste toutes les difficultés, les blocages, les traumatismes qu'elles peuvent avoir vécu avec leur père terrestre, leur père biologique. Et donc l'image du père, son archétype, pourrait-on dire, peut être dégradée dans la conscience, ou plutôt dans l'inconscient humain. Car beaucoup d'enfants, comme vous le savez, ont souffert d'un père autoritaire, abusif, violent, ou au contraire absent. Et donc, elles projettent sur Dieu le ressentiment ou le manque qu'elles ont vécu vis-à-vis de leur père terrestre. Alors, quelle solution? Eh bien, la solution, c'est la guérison. Nous devons nous laisser guérir par le Christ et l'Esprit Saint de cette projection et retrouver le sens profond de la paternité divine et de notre filiation vis-à-vis du Père céleste. Et comment guérir? Eh bien, en regardant le Christ vivre sa relation avec le Père. c'est-à-dire l'abandon, la confiance totale, permanente. C'est-à-dire aussi nous effacer, nous ouvrir, nous vider pour nous remplir de la présence de Dieu, accepter ses dons, discerner sa volonté et l'accomplir, nous laisser conduire, nous laisser guider, nous laisser inspirer à chaque instant dans nos pensées, nos paroles, nos actions et aussi notre silence. Et retrouver cette merveilleuse filiation oubliée, c'est exactement ce qui est représenté sur cette icône. C'est-à-dire nous jeter dans les bras du Père, comme le fils prodigue qui a renié son Père, a dilapidé son héritage, s'est éloigné du Père pour ne plus être dans sa dépendance, et qui à un moment donné se retrouve face à son propre néant. Et à ce moment-là, il retourne vers le Père, il court vers le Père, et le Père, comme vous savez, l'attend depuis le début de l'histoire. Et chaque jour, il va au début du chemin, et il regarde l'horizon, comme ce râne dans l'histoire, s'il ne voit rien venir. Est-ce que mon fils, là-bas, ce petit nuage de poussière qui arrive, ce ne serait pas lui qui revient se jeter dans mes bras? C'est exactement, je dirais, en résumé tout à fait extraordinaire, ce qui nous est proposé dans notre vie spirituelle. Nous jeter dans les bras du Père. Et nous jeter dans les bras du Père, c'est admettre sans aucune honte, aucun amour propre mal placé, notre faiblesse et notre dépendance, notre fragilité, mais aussi notre égarement, notre éloignement. C'est renoncer à l'orgueil de l'autosuffisance et à l'illusion de l'autonomie individualiste. Et cette attitude, et cette attitude seulement, rend à l'homme sa véritable dimension de personne, de fils et de fille, de celui ou de celle qui reçoit la vie d'un autre, et qui en prend conscience, parce que je pense que la prise de conscience est absolument nécessaire, et qui en retour alors se tourne vers le Père pour le bénir, et lui rendre grâce pour ce don, et lui dire « Notre Père, mon Père ». Et cette attitude, c'est aussi restaurer, raviver le désir de Dieu en nous, en nous tournant vers lui dans une attitude d'ouverture totale, de gratitude infinie. Par exemple, nous le chantons dans le psaume 63, au début des lots de chaque dimanche. Ô Dieu, mon Dieu, et on peut remplacer le mon Dieu par Père. Ô Père, je te cherche dès l'aurore, mon âme a soif de toi. Saint Grégoire de Nice souligne l'importance du désir dans notre vie spirituelle. Le désir de Dieu est fondamental dans notre prière et dans la vie spirituelle chrétienne. Trouver Dieu, écrit-il, consiste à le chercher sans cesse. Voilà quelque chose d'extrêmement riche, important, à méditer sans cesse aussi. Trouver Dieu consiste à le chercher sans cesse. Je vous ai évoqué tout à l'heure le Cantique des Cantiques, où la fiancée court à la recherche du fiancé. Et le fiancé arrive, repart, et c'est un chassé-croisé permanent de désir inassouvi, inaccompli, mais ce désir qui est le moteur de la relation entre les personnes qui s'aiment. Trouver Dieu consiste à le chercher sans cesse. C'est vraiment, vraiment voir Dieu, écrit Grégoire de Nice, que de n'être jamais rassasié de le désirer. Et saint Augustin écrivait « Ma prière, c'est mon désir ». L'important dans la prière, écrit Jean-Yves Leloup commentant cette phrase de saint Augustin, ce ne sont pas les mots, bien sûr, mais le désir qui les habite. L'homme est un être de désir, et sans ce désir d'être, rien n'existe. Prier, c'est accéder à une conscience de plus en plus vivante qu'il nous est possible de désirer quelqu'un pour lui-même. Et donc, s'il est prononcé avec l'amour d'un fils, d'une fille qui parle à son Père céleste, ces deux simples petits mots, mais pas si petits que ça finalement, notre Père, est une prière intense qui se suffit à elle-même. Et donc, nous comprenons ce que je disais au début de cette moniale qui disait « Quand je commence à m'arrêter à chacun des mots de la prière, je ne parviens pas à dépasser les deux premiers. » notre Père, mon Père, Abba, plus là. Et prononcer ce mot comme un fils, une fille, c'est-à-dire avec tendresse et reconnaissance, pas froidement, bien sûr, et à distance. Et vaincre le pontife, un spécialiste de la prière, comme vous le savez sans doute, disait « Mieux vaut un seul mot dans l'intimité que mille dans l'éloignement. » Qui paraît assez évident. Et ce mot peut être « Père ». Et il poursuit « Notre Père qui est aux cieux. » Cette parole est de celle, cette parole est de ceux qui ont intimité avec Dieu comme un fils sur le sein de son Père. Comme Saint Jean aussi se reposera sur le sein du Christ. Cependant, cette filiation, comme vous le savez, notre filiation divine est différente de la filiation du Fils de Dieu. Lui est Fils de Dieu par nature, de toute éternité, avant l'aurore de la création, comme nous le chantons. La filiation de toute éternité avant les siècles. Par contre, nous devenons fils, comme l'écrit saint Paul, je crois que c'est le premier à le dire, et ça a été redit et amplifié par toute la tradition de l'Église, nous devenons fils par adoption. Nous sommes adoptés par le Père. Et cette qualité de fils d'adoption, on pourrait se dire, oh là, mais c'est pas la qualité la meilleure qu'on puisse trouver en magasin. C'est une qualité moindre, légèrement dégradée, un peu de seconde zone. Comme vous savez, avant dans le droit civil, on distinguait les enfants légitimes, les enfants illégitimes, les enfants nés dans le mariage, hors mariage, etc. Et il y avait des distinctions, des inégalités entre eux. Alors est-ce que nous sommes des filles et des fils de seconde zone pour le Père Céleste? Bien, vous vous doutez que la réponse est non, bien sûr. Dire que nous sommes filles et fils de Dieu, ce n'est pas une métaphore, ni une pâle imitation de la filiation divine du Christ, du Verbe divin. Le Christ lui-même nous a élevés à la dignité de fils de Dieu et de frère. Et il partage avec nous sa dignité de fils de Dieu pour nous élever vers le Père qui nous aime tendrement, comme Jésus lui-même nous aime. Et à de multiples reprises, le Christ va souligner cette filiation. Le Père lui-même, dit-il, le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Ou encore, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons en lui notre demeure. Et dans sa dernière prière sacerdotale, il dit, Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Il ne s'agit donc pas d'un effet secondaire, d'un amour qui serait un peu terni, mais d'un amour plein et entier, l'amour divin qui est dans nos cœurs comme en celui du Christ. La deuxième conséquence, c'est que si nous sommes tous fils du même Père, nécessairement nous sommes frères. Et le Christ à nouveau le dit, vous êtes tous des frères, car vous avez le même Père Céleste. Il dit autre part, je monte vers mon Père et votre Père. Et saint Paul dira, le Père les a destinés, c'est-à-dire les, c'est nous, les hommes, nous a destinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils devienne le premier-né entre plusieurs frères. Et d'ailleurs, l'adjectif « notre », avant « notre Père », apporte une caractéristique essentielle à la prière, c'est-à-dire sa dimension collective, ecclésiale, fraternelle. Et ce premier adjectif « notre », qui est avant « Père », se répercute comme un écho dans toute la prière du Notre Père. « Donne-nous notre pain substantiel, remets-nous nos dettes, nos débiteurs, ne permet pas que nous entrions, délivre-nous. » Et quand je dis le Notre Père, écrit un commentateur, avec sincérité, en ne pensant à personne, en pensant simplement à Dieu, ce sont tous mes frères humains, contemporains, avec leurs souffrances, que je prends avec moi dans ma prière. que je rassemble dans ce nôtre, je déborde les limites de mon moi. Je ne sais pas si on réalise le bouleversement de mentalité et les difficultés suscitées au début du christianisme dans l'Antiquité, qui connaissait une société tellement hiérarchisée, où l'esclavage était encore au goût du jour, devant cette révolution qu'introduit le Christ dans l'humanité, en disant « vous êtes tous frères », c'est-à-dire tous, il n'y a plus de maître, il n'y a plus d'esclave, il n'y a plus de serviteur, on peut l'être par fonction, par métier, etc. Mais fondamentalement, ontologiquement, tous les hommes et les femmes sont égaux entre eux, puisqu'ils sont tous frères et sœurs et fils et filles du même père. Saint Augustin, par exemple, le rappelait, nous sommes à la fin du IVe siècle, donc toujours dans l'Antiquité, il dit « devant ce Père céleste, le riche et le pauvre sont frères. Devant ce Père, le maître et l'esclave sont frères. Devant ce Père, le général et le simple soldat sont frères. Les fidèles chrétiens, tous, tant qu'ils sont, ont sur terre des pères de conditions diverses, les uns nobles, les autres sans notoriété. » Mais ils invoquent tous un Père qui est dans les cieux. Et vous imaginez, on peut s'imaginer facilement les tensions que cette pensée révolutionnaire a pu avoir dans l'Antiquité. Et par la suite d'ailleurs, les droits de l'homme sont issus en droite ligne de la pensée du Christ, même si ce n'est qu'une conséquence plus lointaine. Alors être frère et sœur, c'est avoir entre nous en fait, des liens plus forts que les liens affectifs ou familiaux, qui ne sont pas, comme vous le savez, toujours au top. Il s'agit d'une communion profonde qui nous dépasse totalement et qui a pour ciment la fraternité en Christ, la grâce de l'Esprit-Saint et l'amour inconditionnel du Père. Et donc, ce n'est pas du tout un amour-sentiment, un amour affectif qui nous unit, mais quelque chose de beaucoup plus fort, impossible à rompre. Et nous pouvons le comprendre par les images, notamment de saint Paul, cette belle image de l'Église qui est un corps dont nous sommes les membres. Il est évident que le pied ne peut pas partir de tout seul dans sa direction, le foie dans une autre, la main ou l'oreille dans d'autres directions encore. Nous formons tous un corps, et ce corps, qui est le corps du Christ, est impossible à dissoudre, à séparer, malgré les querelles intestines, si je puis dire. Cyril d'Alexandrie, par exemple, dit « Nous sommes fondus en un seul corps dans le Christ ». Et Jean Chrysostome, « Apprenons la merveille de ce sacrement », il parle de l'Eucharistie. Le but de son institution, les effets qu'il produit. Nous devenons un seul corps, membre de sa chair, os de ses os. C'est ce que réalise la nourriture qu'il nous donne. Il se mêle à nous, le Christ, afin que nous devenions une seule réalité, comme un corps joint à sa tête. Et Maxime le Confesseur dit, tous reçoivent de l'Église une nature unique, impossible à rompre. C'est comme l'atome, insécable. Tous se font, pour ainsi dire, les uns dans les autres, par la force simple et indivisible de la foi. C'est donc la réalité ecclésiale fondamentale. Nous ne sommes pas dans l'Église, je vous l'avais déjà rappelé à certaines occasions, avant tout pour participer à des belles liturgies, à des magnifiques offices, ou pour nous rassembler de manière priante ou sympathique, ou bien pour rompre un peu notre solitude. Bien sûr, tout cela est légitime. Ce n'est pas du tout à rejeter, et je ne m'en moque pas, absolument pas. Tout cela est important, mais ce qui est fondamental, c'est, par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, nous le comprenons, c'est de vivre en profondeur la fraternité des fils et filles du même Dieu, du même Père. C'est-à-dire de devenir des personnes à l'image des personnes divines, pour vivre en interrelation, en interdépendance, les uns avec les autres. Et pour partager ce que saint Paul, toujours lui, appelle d'un beau terme, c'est l'amour agapé, l'amour fraternel, de partage, d'où nos agapes d'ailleurs sont un petit reflet, plus ou moins parfait. Et donc, saint Paul, à nouveau, va développer dans tous ses épîtres ce qu'est la fraternité. Je vous cite des choses que vous connaissez par cœur, mais c'est peut-être bon de le rappeler. Porter les fardeaux les uns des autres. Pardonner sans cesse. Pleurer avec ceux qui pleurent. Nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Avoir, dit-il, les mêmes sentiments que ceux du Christ Jésus. C'est pas peu de choses, hein. Quand on voit le Christ agir et donner sa vie pour nous et la mort sur une croix, avoir les mêmes sentiments que ceux du Christ, le Fils parfait du Père. Et c'est notre chemin essentiel, ontologique, spirituel, qui nous est proposé. Et courage, nous approchons de la sortie. Je voudrais terminer par là. Prendre conscience de notre filiation divine, c'est aussi aller vers Dieu fondamentalement, essentiellement, comme des petits enfants. Nous touchons ici à un autre point fondamental de l'enseignement du Christ. Accueillir Dieu et cette parole, et sa parole, comme des enfants. À plusieurs reprises, vous le rappelez, le Christ donne aux enfants et aux tout petits la première place, la place d'honneur. Par exemple, lorsque les disciples lui demandent « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Le Christ alors appelle un enfant et le place au milieu d'eux et leur dit « Je vous l'affirme en vérité, si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si quelqu'un se fait petit comme ses enfants, il sera le plus grand dans le royaume. » Ou encore, laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. En effet, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme ses enfants. En vérité, si quelqu'un ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant, cette personne ne pourra jamais y entrer. C'est sérieux, hein? C'est pas extrêmement nuancé. Alors on verra pourquoi. Enfin, je vais essayer. Veillez à ne pas maîtriser un seul de ces petits, dit-il encore, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux regardent sans cesse la face de mon Père. Alors, question bien sûr, pourquoi le Christ accorde-t-il tant d'importance aux petits enfants? Et pas simplement aux petits, mais aux pauvres, aux plus petits, aux démunis, aux fragiles, aux lépreux, aux boiteux. Pourquoi accorder tant d'importance aux petits enfants et quel est le rapport avec notre sujet du jour? Dissipons d'abord, je pense, un malentendu en répondant à l'objection qui peut surgir spontanément en nous. Il ne s'agit pas évidemment d'idéaliser les enfants et de les confondre avec des angélos purs et sans tache. Nous avons tous l'expérience d'enfants et nous savons que les enfants, eux aussi, sont traversés de courants qui ne sont pas toujours des courants bénéfiques et angéliques. De multiples défauts peuvent dévoyer les enfants dès l'enfance comme les adultes. L'égoïsme, le mensonge, la jalousie, la violence, la convoitise, l'agressivité, enfin, je ne sais pas si vous les connaissez aussi bien que moi. Ce n'est pas de tels petits êtres humains déjà envahis par les passions dont parle le Christ, évidemment. Il évoque ici les tout-petits qui ont gardé la pureté de cœur, c'est-à-dire la naïveté, la spontanéité, la candeur que l'on observe avec émerveillement souvent chez les tout petits enfants, et souvent même avant 7 ans. Vous voyez les petits de 2, 3, 4 ans, ce pouvoir d'émerveillement qu'ils ont, d'ouverture, cet enthousiasme. Quelles sont les qualités justement qui peuvent inciter Jésus à donner les tout petits en exemple et à en faire les plus grands dans le royaume? N'oublions pas, les plus grands. Eh bien, là, je vous le disais, c'est la pureté de cœur, la spontanéité, l'enthousiasme, la faculté d'émerveillement, la sensibilité à la relation, aux images, aux symboles, la fraîcheur, la candeur, l'absence de calcul, de malice, la transparence, la perméabilité, la faculté d'entrer dans un cœur à cœur, sans rationaliser, sans intellectualiser les expériences vécues, la faculté aussi d'un enfant de s'investir totalement dans ce qu'il est en train de vivre à l'instant présent, sans arrière-pensée, sans calcul, l'aptitude à accueillir ce qui vient et surtout celui qui vient. Et vous savez que dans beaucoup de parents, d'éducateurs, de psychologues relatent des expériences vécues par les tout-petits qui sont des expériences spirituelles fortes, c'est-à-dire un contact qu'a l'enfant spontanément avec le mystère, avec les anges par exemple, ou avec la Vierge Marie. Et vous savez que de nombreuses apparitions ont eu lieu à des enfants et non pas à des adultes. Pensons déjà même à Jeanne d'Arc qui était très jeune. Elle n'était plus tout à fait un enfant, mais c'était un être qui avait 16 ans, de cœur pur. Pensons aux enfants de Fatima et des tas d'autres enfants qui ont vécu ces apparitions mariales et ces apparitions angéliques. Parce qu'ils ont cette faculté, cette ouverture sans arrière-pensée au monde, au merveilleux et au mystère. Et donc, ce que Jésus nous demande, c'est de réveiller en nous l'esprit d'enfance. Ce qui est important, peut-être le plus important dans cette prière, c'est de nous reconnaître enfants du Père Céleste. Et donc de nous adresser à lui avec la confiance, la spontanéité, l'enthousiasme, la joie que peut avoir un enfant quand il s'adresse à son père, à sa mère. C'est-à-dire la tendresse, la confiance. Et nouer avec le Père une relation de cœur à cœur. Comme un petit enfant. Et de nous sentir, de nous reconnaître joyeusement dépendants du Père, de lui remettre notre vie entre ses mains. Cette attitude, d'ailleurs, est radicalement opposée à celle que, malheureusement, on nous inculque dans l'éducation. Depuis notre enfance, justement, être le meilleur, le premier, être parfait, être le plus rapide, le plus malin. S'en mettre plein les poches. S'en sortir par soi-même, être autosuffisant. Dans notre culture, c'est l'individualisme exacerbé qui domine. Et se mettre dans la dépendance de l'autre, c'est une sorte d'aberration dangereuse, une prise de risque, une faiblesse à éviter. Combien de personnes acceptent-elles l'idée de se mettre dans la dépendance de Dieu et de lui devoir tout ? Et combien, même si elles admettent l'existence de Dieu, le considèrent-elles comme ne servant qu'à exaucer leurs désirs et leurs prières ? Je te prie si tu m'exauces. Si tel n'est pas le cas, je te rejette. Et chaque fois qu'on ne comprend pas l'attitude de Dieu vis-à-vis de nous, ou vis-à-vis du monde, ou de la souffrance, etc., eh bien nous rejetons Dieu immédiatement. Nous n'avons pas reçu ce que nous attendions, ce que nous espérions recevoir. Pour le dire autrement, se reconnaître dépendant de Dieu, du Père Céleste, c'est entrer avec joie et légèreté, et quel soulagement dans la légèreté, dans la gratitude et dans la gratuité. La gratitude, c'est la louange qui jaillit. Et la gratuité, je te prie, Père, pour le bonheur de te prier, de m'adresser à toi, et non pas pour recevoir en retour. Et si chaque jour nous prions notre Père comme le Christ le faisait sans cesse dans l'abandon, la confiance, comme un petit enfant rempli de joie, de tendresse, alors oui, je crois vraiment, notre vie en est bouleversée. Et je vous propose, Bernard nous a déjà proposé d'autres choses, mais c'est le même chemin, je nous propose ce programme pendant ce carême, un programme tout petit, tout modeste en apparence, tout enfantin, mais infiniment riche et profond. C'est d'aller vers le Père comme un enfant, dans la joie, l'enthousiasme, la confiance, dans une attitude d'abandon qui est celle que nous avons vue dans la vie du Christ. Et je terminerai par un très beau texte d'Isaac le Syrien, que je vous propose de lire souvent, chaque jour, moins souvent, mais de vous en imprégner avant de prier. C'est une très bonne introduction à la prière. Isaac le Syrien écrit « Quand tu viens devant Dieu par la prière, sois dans ta pensée comme une fourmi, comme un enfant qui balbutie. Et ne dis rien devant lui que tu prétends savoir, mais approche Dieu avec un cœur d'enfant. Va devant lui pour recevoir cette sollicitude avec laquelle les pères veillent sur leurs petits-enfants. On l'a dit, le Seigneur garde les petits-enfants. Quand Dieu verra qu'en toute pureté de cœur tu te confies à lui plus qu'à toi-même, tu te confies à lui plus qu'à toi-même, alors une puissance inconnue de toi viendra faire en toi sa demeure. Et ça me fait penser aussi à une des plus belles béatitudes, « Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Je vous propose de terminer par une prière d'enfant face à notre Père.
Yeah.